Vous êtes sur RTL. Comme.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis d'EDM, bienvenue dans l'hebdo. Emma Strack, Patrice Romden et Christophe Brun sont toujours là. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Mais dites-moi, la vie commence à ressembler à quelque chose. Des restos, des spectacles, des terrasses. Et même s'il faut quand même respecter les gestes barrières un minimum, notamment dans les transports. Et puis, vous savez ce qui est le plus marquant ? C'est qu'on enlève ces foutus masques. Fini le fantasme du chirurgien et surtout, on va enfin voir le bas du visage des gens qu'on ne connaît pas.
Ah oui.
Et là, je pense aux célibataires, hommes ou femmes, qui hésitaient devant des yeux de braise, un front intelligent, des pommettes accueillantes, mais qui hésitaient se demandant ce qu'il pouvait y avoir sous le masque.
Eh oui.
Eh ouais. Et c'est vrai, on l'a tous vécu, on a eu des surprises, non?
Bonne ou mauvaise?
Non, vous n'en avez pas eu, les garçons?
Ouais, ouais, oui. Ah ouais, c'est ça?
Ah, voilà.
Ouais.
Allez, il y en a eu des bonnes aussi.
Ah ouais?
Non?
Oui, oui,
c'est pas celle-là que vous retenez.
Non. Allez, au sommaire, Emma.
Alors, vous en êtes peut-être à l'orange pressée ou au bol de céréales. Eh bien, ça tombe bien, on va passer en revue ce qu'il y a dans les placards et le frigo aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué de faire ses courses pour le plaisir et pour la santé.
Patrice.
Vous l'avez identifié, Michael Jackson.
Ça donne envie de danser, hein.
Eh oui.
Même le matin, comme ça, à 9h15.
Alors, vendredi prochain, 25 juin, ce sera le 12e anniversaire de la mort du roi de la pop. Et ce sera aussi la journée mondiale du vitiligo. Ce n'est bien sûr pas un hasard, Michael Jackson souffrait de cette maladie qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau. Alors ça peut toucher les mains, les pieds, le visage, n'importe quoi, et c'est psychiquement éprouvant quand même.
Coach Cricri.
Fais pas ci, fais pas ça,
disait Dutronc et en
68.
Bravo, en 68. Wow. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire mon Dutronc et je vais vous dire ce que vous ne devrez pas faire en courant ou en marchant, puisque ces choses acquises, les vacances approchent. Je suis certain que vous allez vous mettre à courir ou à marcher, si ce n'est pas déjà fait. En attendant, fais pas ci, fais pas ça. Ah, dada, pour vous de cadet, à cheval sur mon bidet.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
On va commencer avec vous, Emma, comme toutes les semaines et à votre demande. C'est un sujet qui revient plusieurs fois par jour et qui s'est imposé comme une question de santé. Vous nous parlez d'alimentation.
Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça devient presque stressant de manger avec les injonctions autour du poids, le surpoids, l'obésité. Et puis tous ces chiffres, les 5 fruits et légumes, les calories, l'IMC, on finit un peu par décrocher, non ?
Index de masse corporelle, je vais y arriver. D'autant qu'il y a les recommandations qui sont très sérieuses. Et puis il y a aussi les allégations affichées sur les emballages. Alors, on va le dire, hein, parfois c'est n'importe quoi, c'est mensonger. Est-ce que finalement les applis dont on nous parle souvent aident à bien choisir ?
Disons qu'elles donnent une indication qui tient surtout compte des nutriments, ce qui a ses limites. Une huile d'olive bio, première pression, à froid, donc super qualité, peut apparaître trop grasse et un sel de mer non raffiné sera toujours trop salé. Or, en se focalisant sur la quantité de sucre, de graisse ou de fibres, on peut passer à côté de l'essentiel.
Oui, et puis on rappelle que manger, c'est pas simple. Simplement se nourrir, on peut avoir du plaisir et puis aimer certaines choses. Bah le goût est important.
C'est mieux quand même. Hein. Et là, il ne s'agit pas de nutriments, donc, mais des aliments eux-mêmes. Alors, on les classe en 3 catégories, les aliments. Il y a le produit brut, donc la pomme, le lait, le poulet, le produit transformé, donc le jus de pomme, le fromage, la baguette. Le produit brut, disons, reste la star, mais il y a encore des choristes autour. Et puis, il y a le produit ultra transformé. Le nuggets de poulet, le nectar de fruits, la glace. Là, le produit d'origine est noyé dans des substances chimiques et des additifs.
Voilà, ça c'est le grand Satan, hein, ces aliments dits ultra transformés. Mais pourtant, ils sont souvent faciles à cuisiner et puis on les mange très vite aussi.
Oui, et c'est là que ça coince, parce qu'à force d'être transformés, ils perdent leurs nutriments. Ça devient ce qu'on appelle des calories vides. Donc, il y a bien des calories, mais elles ont perdu les vitamines. vitamines, les minéraux, les antioxydants, on est parti du riz complet et on arrive aux céréales caramélisées, au riz soufflé si vous voulez. Vous disiez qu'il se mange rapidement, oui, et comme on mastique moins, eh bien on est moins vite rassasié, donc on mange plus. Et puis il y a aussi les additifs hein, potentiellement dangereux pour la santé.
On ne le répétera jamais assez, il faut mastiquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est compliqué, on ne va pas radicalement changer sa façon de manger.
C'est vrai, on peut se procurer le livre qui m'a aidé à préparer cette chronique, Le Bon Choix au supermarché, aux éditions Thierry Soucard. Il ne s'agit pas d'arrêter les chips et les plats préparés, mais de bien les choisir. Et ce livre va vous y aider. Autre astuce simple, regardez la liste des ingrédients. En fait, il n'y a que ça qui compte vraiment sur les emballages. Si vous ne voyez que des produits que vous pourriez avoir dans la cuisine, là c'est bon. Si ce sont des mots barbares comme la xanthane, les diglycérides d'acide gras, le sorbate de potassium et les E en tout genre avec plein de chiffres derrière, bah vous reposez le produit et vous regardez celui d'à côté. Et puis c'est l'été, hein, vous pouvez profiter des vacances pour cuisiner un peu. Il y a plein de super fruits et légumes qui ne demandent qu'à être tranchés pour faire une bonne salade. Impliquez les enfants même, le plat aura le bon goût de fierté du cuisinier.
Et bien justement, on va parler de ce livre, Le Bon Choix au supermarché, aux éditions Thierry Soucard, sous la direction d'Angélique Houlbert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous avez donc participé à la rédaction de ce livre, Le Bon Choix au supermarché. Alors, ça décrit la nutrition Nouveau Monde, qui s'intéresse aux aliments dans leur globalité, versus la nutrition Ancien Monde, où on pensait que nutriments, finalement, tout ce qu'il y avait de bon à l'intérieur de ces aliments. Aujourd'hui, il faut penser globalité.
Oui, exactement, Michel, parce qu'en fait, on s'est trop longtemps basé sur le nombre de calories, sur le gras, le sucre, le sel. En fait, c'est une vision super fragmentée hein, d'un aliment. Vraiment, aujourd'hui, la nutrition, il y a vraiment deux visions qui se posent, l'ancienne, avec tous ces critères-là. Alors, on peut encore se baser un petit peu là-dessus, mais ce n'est pas la priorité. Comme disait Emma, on regarde en priorité la liste des ingrédients, ce n'est pas le tableau nutritionnel. Donc, on regarde s'il y a des cris, s'il y a des noms barbares, on laisse en rayon. Et effectivement, si on a par exemple deux bonnes listes, là, on peut regarder, oui, si, par exemple, pour des gâteaux, on peut regarder ceux qui sont les moins sucrés. Quoi.
Emma.
Parfois, il est indiqué sur un emballage que le produit est enrichi en vitamine C ou en vitamine D, par exemple, qu'il est riche en fibres, pauvre en sucre. Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce que ça, c'est vraiment 100% une affaire marketing?
Oui, alors pas mal d'allégations nutritionnelles hein, de ce type-là sont sur des catégories de produits qui sont habituellement gras, sucrés, salés. Et donc du coup, mais méfiez-vous, ça peut camoufler justement un produit qui est ultra transformé avec, comme vous disiez tout à l'heure, avec des mono et des glycérides d'acide gras, avec des ingrédients qui n'ont absolument rien à faire dans nos assiettes.
Patrice,
est-ce que le juge de paix finalement, c'est pas la liste des ingrédients? Dès qu'il y en a plus de 5, il faut se méfier.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on doit regarder en priorité sur un aliment qui a un emballage. C'est la liste des ingrédients. Plus la liste est courte et mieux c'est, plus elle est longue et plus vous risquez de trouver justement des additifs et des ingrédients technologiques. Alors les ingrédients technologiques, ça peut être amidon modifié, ça peut être juste des protéines. En fait, on n'a plus l'aliment de base, mais on a ce qui est issu, ce qui provient, ce qu'on appelle du cracking hein, des aliments. Hein. On va totalement déstructurer un produit. On déstructure un grain de blé, on n'utilise que le gluten, on n'utilise que les fibres. Et en fait, c'est ça que vous devez regarder. C'est juste la liste des ingrédients. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Bon, il faut la trouver. Hein. Parfois, il faut chauffer ses lunettes, certes. Mais du coup, c'est vraiment ce qui va vous indiquer si un produit est brut ou ultra transformé.
Merci beaucoup, Angélique Houlbert. Alors, il est bien fait, ce petit bouquin, parce que vous verrez que sur la page, à chaque fois, il y a des aliments. Par exemple, je regarde la page pâtes farcies. Vous savez, ces raviolis, par exemple, qui sont pleins de viande ou de fromage. Et bien, sur la page de gauche, vous avez « oui ». Ce que vous pouvez acheter. Et il y a les marques, hein, il y a les photos des marques. Et sur la page de droite, vous avez non. Parfois, pour la même marque, vous avez des choses qui ne sont pas recommandées. Donc, c'est bien foutu. Vous allez vous mettre à dos pas mal de marques, Angélique. Mais en fait, c'est le but. Je vous rappelle le titre du livre, Le Bon Choix au supermarché. La nutrition cigale. Alors, c'est Thierry Soucard, sous la direction d'Angélique Houlbert. Un petit mot, Emma.
Bah, puisqu'on est dans la cuisine, vous voyez ce que c'est la cuisson au bain-marie?
Bah oui, quand même.
On rappelle quand même, on chauffe dans un récipient, lui-même plongé dans un bain d'eau bouillante. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette expression de bain-marie?
Alors, ça doit être de Marie.
C'est qui cette Marie?
Et alors,
c'est pas la Marie.
Le mari.
Non, c'est bien une Marie.
Une Marie.
Mais c'est pas la Marie à laquelle on pense tous. C'est une référence à une alchimiste qui aurait inventé cette technique 3 siècles avant Jésus-Christ.
Ah, tu vois? Voilà.
Marie la juive. On rappelle que l'alchimie, ça consiste à purifier l'impur en pur, à transformer un métal banal en or, par exemple. Alors, pas sûr que le bain-marie ait marché, mais en tout cas, ça marche pas mal pour faire des œufs cocottes.
On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 avec, l'intello, le maître Capello de notre émission qui va s'intéresser à Michael Jackson.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Michael Jackson, l'homme aux 350 millions de disques vendus, seuls les Beatles et Elvis Presley ont fait mieux. Et il aurait eu 63 ans vendredi prochain.
Ouais, et il nous laisse en héritage alors non seulement des disques, non seulement des clips, mais aussi l'occasion d'évoquer une maladie dont il a souffert et dont ce sera donc vendredi prochain la journée mondiale, le vitiligo. Une maladie qui touche entre 1 et 2% de la population mondiale, les femmes comme les hommes.
Alors, on va expliquer ça. Le vitiligo, c'est donc une affection de la peau. Ceux qui en souffrent constatent un beau matin que leur peau est en phase de dépigmentation. Ce sont des taches blanches qui apparaissent sur le corps. Et elles sont dues, ces taches, parfois même sont des plaques, à la disparition de cellules qu'on appelle les mélanocytes. Ce sont ces cellules qui produisent le pigment, la mélanine, qui donne sa couleur à la peau.
Alors, pour Michael Jackson, le diagnostic tombe dans les années 80, il a à peu près 25 ans à l'époque, et il sera confirmé le diagnostic lors de l'autopsie consécutive à son décès en 2009. Alors le roi de la pop était partiellement touché, 5 endroits de son corps présentaient des taches blanches. Certes, la maladie n'est pas contagieuse, certes, elle n'est pas douloureuse, aucune gravité donc, mais le préjudice est réel sur le plan esthétique et sur le plan psychique, évidemment.
Voilà, et surtout pour une star planétaire comme Michael Jackson, qui se sait surveiller H24 et accorde une attention obsessionnelle à son look. Ça, comme en témoignent les nombreuses opérations chirurgicales qu'il a subies, notamment des rhinoplasties, les interventions de chirurgie esthétique sur le nez.
Alors le vitiligo, lui, il a une particularité, c'est qu'il est imprévisible. Il s'arrête, il reprend, on ne sait jamais trop pourquoi. C'est ce qui va conduire Michael Jackson à, comme on dit, finir le boulot. C'est-à-dire que sur les conseils de son dermatologue, il décide de se débarrasser des zones foncées de son corps. Alors pour ce faire, il utilise, entre autres produits, une crème à base d'hydroquinone.
Oui, c'est un produit qui permet d'éclaircir la peau parce qu'il va justement freiner la synthèse de ce fameux pigment, la mélanine.
Et en fait, Michael Jackson mise tout sur ce qui peut lui permettre d'homogénéiser la couleur de sa peau. Il utilise beaucoup aussi le maquillage. Les mauvaises langues ont beaucoup glosé à l'époque sur le fait qu'il blanchissait d'année en année, mais elles oubliaient, ces mauvaises langues, de préciser qu'il y avait une raison à cela. Alors certains l'ont même accusé d'avoir honte d'être noir. Et puis, il y a autre chose aussi. Vous le rappelez sans doute, Michael Jackson sortait souvent en mitouflé, avec chapeau, lunettes, écharpe, gants, parapluie, quelle qu'ait pu être la météo à l'époque. Et là encore, ça s'explique, c'est-à-dire que les personnes atteintes de vitiligo sont un peu plus exposées que les autres au risque de cancer de la peau, parce que les zones dépigmentées ne font plus barrière aux ultraviolets du soleil.
Oui, ce qui est fou, c'est que les gens qui ont des plaques de vitiligo ont tendance à faire l'inverse de ce que faisait Michael Jackson, puisqu'elles essayent de pigmenter, de masquer, de maquiller les plaques qui sont, elles, dépigmentées, qui sont blanches, alors que lui, il a fait l'inverse, il a voulu que tout le reste de son corps change de couleur.
C'est exactement ça.
Michael Jackson et son histoire. Les amis, on a un peu de temps pour des petits mots, des mots de patient, drôlatiques.
J'ai un mot. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un petit piège? La formication. Mi-cation.
Mication, oui, j'ai bien compris. La formication, c'est le fait de...
Ça sourit, ça rigole.
C'est le fait de faire une table en formica. Ou de faire l'amour sur une table en formica.
Ah, pas mal. Elle est bien, celle-là.
La formication.
L'association d'idées, c'est terrible.
Parfait. Moi, j'ai envie qu'on garde celle-là, personne.
La formication. Ça a un rapport avec les formes.
Oui, tout à fait. Tu vois, c'est la sensation d'engourdissement semblable au picotement des formes. Non, mais c'est ça.
C'est la formication, c'est pas la formication.
Eh ben non, ça s'appelle la formication.
Ah ouais?
Ouais, je vous assure.
J'ai jamais entendu
avec
parler.
Un M.
Un mot, bah vous savez ce que c'est que le tympan, Michel. Oui, c'est vous qui allez nous rappeler de quoi il s'agit.
Hein, c'est la petite membrane qui se trouve au fond du conduit auditif et qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne, dans laquelle nous avons les osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui se contactent directement avec la fenêtre ovale dans laquelle la platine de l'étrier s'enfonce pour faire bouger les liquides de l'oreille interne, qui font bouger eux-mêmes les cils qui permettent au son de partir de l'oreille interne jusqu'à l'air auditif qui permet de prendre conscience de ce que l'on a.
C'est pénible.
L'étrier étant le plus petit os
du corps.
Du corps.
Bon, alors, moi, je...
Donc le tympan, Emma, on en est où sur le tympan?
Vous aviez une question sur le tympan?
L'origine de ce mot.
Le tympan?
Tympan.
Membrane.
Non, membrane, non.
En grec, ça veut dire tambour.
Ouais. Ah oui,
et
ah,
on comprend.
Oui.
Ouais.
Ça résonne.
Ouais. Et on comprend l'analogie avec cette membrane située, donc, comme vous l'avez dit, entre l'oreille interne et l'oreille.
Magnifique.
Oui,
Patrice.
Vous avez les gencives qui saignent?
Non.
C'est une pub. En fait, c'est une pub.
Imaginez que vous ayez les gencives qui saignent. Eh ben, il se pourrait bien que votre taux de vitamine C soit trop faible. Alors, augmentez vos apports quotidiens, mangez du poivron, du chou frisé, des kiwis, ce que vous voulez, mais de la vitamine C. C'est le conseil que donnent des chercheurs américains qui ont analysé les données de 15 études faites sur le sujet. Info trouvée dans Science et Vie.
Alors si vous avez les gencives qui saignent, ça peut être signe de parodontite aussi. Hein, les tissus de soutien de la dent, et il faut aller voir votre dentiste. Parfois, il suffit de se faire détartrer pour que ça passe. Dr Good, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec cet excellent magazine qui est en kiosque actuellement et en couverture. En finir avec le mal de dos, avec un gros dossier sur les gestes qui soulagent, les mouvements qui soignent et les exercices chers à Coach Cricri qui vous renforceront le dos. Et vous avez aussi toute une info sur le cholestérol, comment le contrôler en mangeant mieux. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la partie 3 de l'émission avec le jeu et un invité.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 3 avec la partie jeu. Aujourd'hui, on va jouer avec Alexandra. Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Lille ?
Oui, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis infirmière.
Infirmière. Ah, voilà. J'adore les infirmières. Enfin, bon.
Alors,
non, mais je me calme. Alexandra, vous savez, vous connaissez le principe du jeu. Il y a une petite énigme, trois versions données par nos trois chroniqueurs et aucune n'est bonne.
C'est la nouveauté.
Une seule est bonne sur les trois, à vous de trouver.
D'accord.
D'abord, je vais vous dire pourquoi vous allez jouer. Des écouteurs sans fil modèle Spark de Focal. Vous pourrez faire du sport en musique, écouter notre émission en replay. C'est Bluetooth, ultra léger et sans fil.
Super.
Donc ce modèle Spark de Focal. Alors écoutez bien, en 2015, les chercheurs de la très sérieuse université McGill de Montréal.
McGill.
Oui.
Je dis ce que je veux passer.
Chacun son tour.
McGill
de Montréal se sont livrés à une expérience un peu particulière. Ils ont recruté 155 hommes et pendant 3 semaines, ils leur ont posé des questions d'ordre social. Ensuite, les chercheurs ont relevé les copies et ils ont classé les hommes en 2 catégories. Ceux qui avaient tendance à être agréables avec les femmes et ceux qui avaient tendance à être plus agressifs, plus querelleurs. La suite de l'enquête a montré autre chose. Version Christophe.
Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, les hommes plutôt sympas avec les femmes, écoutez-moi bien, avaient les cheveux plus longs que les autres. Donc moi, je suis pas au top quand même. Mais bon. D'après les chercheurs, le fait d'avoir les cheveux plus longs incite l'homme à s'identifier à l'image qu'on se fait traditionnellement de la femme et donc à mieux la comprendre, à mieux la cerner, à mieux fonctionner avec. Voilà.
Donc les cheveux longs. Patrice,
ce type est fou.
Alors, j'ai les cheveux cons.
Tout aussi incroyable que cela puisse paraître, les hommes classés comme plus agréables avaient pour point commun d'avoir un index plus court que les autres. D'après les chercheurs, il y a un lien entre la taille de l'index et la quantité d'hormones mâles, notamment la testostérone, à laquelle on est exposé en tant que fœtus, figurez-vous.
Version Emma.
Encore plus incroyable, les hommes les plus agressifs avec les femmes avaient en moyenne à la fois une voiture plus luxueuse et un pénis plus court que les autres. La question, c'est pourquoi ? Eh bien, mystère. Oui. Simple constatation que les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer scientifiquement, même si on peut quand même se faire une petite opinion.
Ouais, enfin, ça, on dit toujours que plus la voiture est grosse, plus voilà, ouais. c'est le prolongement.
Mais dis pas ça devant Christophe, qui quand même roule à bord d'un truc énorme.
Alors, Michel est en alors... smart. Ce qui est vrai.
Alexandra, donc vous avez trois versions, je vous les rappelle. Les cheveux longs, l'index plus court et la voiture plus longue.
Ouais, la voiture, je la mets de côté. Les cheveux aussi. Je pense que je vais prendre la version de Patrice.
Et ah, bravo, vous avez gagné. Alors, vous avez gagné le modèle Spark de Focal, des écouteurs sans fil qu'on va vous envoyer. Alors, Patrice, ça demande une petite explication.
C'est un truc de fou, hein. Cette histoire d'index est scientifiquement documentée. Alors, la clé de l'affaire, c'est ce qu'on appelle le ratio digital. Vous divisez la longueur de l'index par celle de l'annulaire.
D'accord.
Messieurs, plus l'index est petit, plus le ratio est petit. Et plus le ratio est petit, plus vous êtes cool avec les femmes. Voilà, c'est la conclusion des chercheurs de l'Université montréalaise. McGill.
Et Alexandra, donc là, oui. Vous avez tous les auditeurs d'RTL, il y a du monde, ils sont tous les mecs qui sont
qui
avec l'index.
Leur index, oui.
Ils sont en train de mesurer leur index et puis...
Et Christophe est en train de casser sa voiture.
Voilà, mais c'est vrai.
Je mets une perruque.
Mais je vous en prie, Alexandra, mais c'est vrai, hein, y a un lien entre la longueur de l'index et le taux de testostérone.
Vous avez l'air sympa avec les femmes, hein, Christophe.
Ça a été prouvé. Et là, tout le monde se regarde.
Bien sûr. Bon, c'est le majeur, ça. C'est pas l'annulaire.
Oui, bah, il a pris le doigt plus long, forcément. Merci beaucoup, Alexandra. Passez une bonne journée.
Merci à vous, c'est gentil.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.
Et nous allons prendre notre QI aujourd'hui. Question à l'invité avec Fabien Olicard. Bonjour mon cher Fabien.
Bonjour Michel, bonjour l'équipe.
Comment
bonjour,
ça va bien
ben, ça va très bien, je suis ravi. Est-ce que vous m'entendez bien Michel?
Oui, je vous entends bien, oui. Je ne suis pas complètement vieux encore. Alors Fabien, vous êtes mentaliste, youtubeur, suivi chaque jour par plus d'un million d'abonnés sur le net. Et vous sortez un livre qui s'appelle « L'anti-guide de la manipulation ». On va en parler tout de suite. Et puis après, on parlera d'un autre livre qui nous intéresse aussi en vue des vacances. Cet anti-guide de la manipulation, c'est parce que nous sommes tous potentiellement manipulés dans la vie.
Oh, on peut même enlever le potentiellement. On est tous manipulés, mais ce qu'on oublie un peu, c'est qu'on est tous manipulateurs. Donc l'idée, c'est de reprendre le pouvoir sans prendre celui des autres, en avoir conscience.
Mais ça, on est tous manipulés consciemment ou alors, si on est manipulé consciemment par quelqu'un qui nous séduit, par exemple, ça n'est pas très grave. Le problème, c'est si on l'est inconsciemment.
Ben, même parfois consciemment. C'est-à-dire, on l'est consciemment et on n'arrive pas à trouver d'échappatoire. On dit, j'ai pas envie de dire oui pour aller au déménagement de Michel la semaine prochaine. Et pourtant, je sens que si je dis non, je vais culpabiliser parce qu'il est déjà en train d'utiliser des petites armes émotionnelles contre moi. Il me dit que si je fais pas le déménagement, bon, ben, c'est peut-être pas si sûr qu'il m'appelle pour parler de mon livre sur RTL. Ben, ça, ce serait une manipulation.
Mmh. Ah, d'accord.
Je vous rassure, ça s'est pas passé comme ça.
Patrice.
Fabien, quels sont les mots clés qui doivent nous alerter lorsqu'on est victime d'une tentative de manipulation?
Ah, alors ça c'est très très simple, il y a trois règles sûrement à respecter. Déjà, si vous sentez que vous avez un problème à dire oui ou à dire non, c'est-à-dire si vous n'avez pas un libre arbitre complet, c'est quand même un vrai souci, c'est qu'il y a une tentative. Si vous vous apercevez aussi qu'on vous a menti dans les données, soit par omission, soit qu'il y a l'un des arguments qu'on vous donne, en fait c'est un mensonge, ça veut dire qu'il y a une tentative de manipulation. Et puis enfin, écoutez vraiment ses émotions. On connaît la nociception. Si je me pince le bras, j'ai mal, mon cerveau me dit « attention, il y a une attaque au bras ». Eh bien, si je me sens pas à l'aise sans savoir vraiment pourquoi, il y a peut-être une manipulation en cours que je n'arrive pas vraiment à conscientiser.
Une question des manipulatrices.
Oh oui. Vous avez parlé de culpabilité tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que on est aussi acteur finalement de la manipulation qu'on subit?
Oui.
Quand on culpabilise.
Oui. La manipulation, c'est un jeu qui se joue à deux. Il y a toujours une victime, une espèce de bourreau et un sauveur, et aucun des rôles n'est le bon rôle. Ils font tous partie de la manipulation. Ils sont tous acteurs, même la victime, malheureusement. C'est-à-dire que si on ne décide pas en fait de sortir du jeu de la manipulation, si on décide de se laisser faire, si on décide de laisser notre culpabilité nous envahir pour les mauvaises raisons, juste par exemple pour être aimé de tout le monde, eh bien on fait partie du processus à part entière. Vous avez compris. complètement raison.
Alors là, c'était pour l'anti-guide de la manipulation, pour tous ceux qui veulent reprendre la main sur leur vie. Vous avez sorti aussi un autre livre, Votre temps est infini, et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, chez First Edition. Vous dites que l'heure la plus importante de la journée, ce serait la première heure, au moment qui suit le réveil et le lever, et que ça détermine l'humeur du reste de la journée.
Exactement. Alors, c'est pas aussi précis que ça, mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand ça se passe mal dans la première heure, ça a tendance en fait à impacter l'humeur de toute la journée. Et c'est pour ça, moi j'ai trouvé ça assez passionnant et je l'ai appliqué à moi-même très tôt, que je n'utilise pas par exemple mon téléphone durant ma première heure après le réveil. Je vais pas lire les infos à ce moment-là, je vais pas, alors moi qui suis sur les réseaux sociaux, je vais surtout pas regarder les commentaires qui parlent de moi à ce moment-là, etc. Il faut vraiment se mettre une bulle protectrice dans cette première heure et faire des choses en prenant le temps, donc ça veut dire mettre son réveil pas trop tard, et puis en faisant des choses agréables qui nous font plaisir. Si on se réveille pour speeder et pour se dépêcher, pour partir à l'arrache, c'est sûr qu'on va pas être dans un bon mood toute la journée.
Et une dernière question, Fabien Licard, vous dites aussi qu'il faut dormir seul, qu'on bénéficie d'un repos jusqu'à 30% plus réparateur.
Oui.
C'est sympa. Comment qu'on fait pour les couples?
C'est sympa pour les couples. Hein. Alors, ça se fait, évidemment, on n'est pas obligé de le faire tout le temps en permanence. Et puis, j'aurais peut-être dû préciser ça dans le livre, on peut aussi se coucher à deux. Hein. On peut passer un moment dans le lit à discuter, par exemple, et à parler de tout, et puis partir. Si on est très fatigué et qu'on a besoin vraiment de beaucoup de sommeil et qu'on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup d'heures de sommeil devant soi, c'est vraiment les critères, ça peut valoir le coup de se dire « bon, et juste là, maintenant, pour cette nuit, je vais dormir là-bas, comme je dors que 5 heures cette nuit, ça me permettra d'être en forme demain. »
Et si on a la chance d'avoir deux chambres aussi.
Deux chambres, ouais. Un canapé aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et attention, c'est celui qui ne veut pas dormir avec l'autre qui va dans le canapé.
Il faut réussir à faire passer le message aussi.
Oui,
merci beaucoup Fabien. Je rappelle donc le premier livre, L'anti-guide de la manipulation, et le deuxième, Votre temps est infini, chez First Edition. Merci beaucoup Fabien, à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Et on se retrouve dans quelques instants avec Coach Cricri qui va nous expliquer ce qu'il ne faut pas faire en courant.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Jusqu'à 10h sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon...
Et c'est la dernière partie de l'émission, la partie 4 avec Coach Cricri. Christophe, ça fait toute l'année que vous nous parlez de ce qu'il faut faire, comment il faut courir, comment il faut manger en courant, etc.
Oui.
Et aujourd'hui, vous allez nous faire l'inverse, nous dire ce qu'il ne faut... pas faire.
Voilà, je vais faire mon rabat-joie aujourd'hui, Michel, pour commencer. Et comme il se remet à faire chaud, vous pensez bien faire en partant courir une bouteille d'eau à la main. Vous partez marcher ou courir avec une bouteille d'eau à la main.
Faute.
Ah ben non, exactement.
Surtout qu'en général, il y a la bouteille dans une main et le portable dans l'autre.
Alors quand il n'y a que la bouteille dans une main, c'est un poids que vous avez d'un côté sans l'avoir de l'autre. Donc, c'est égal à un déséquilibre. Déséquilibre qui peut modifier votre posture et donc votre foulée. Vous taperez plus fort d'un côté et vous compenserez certainement de l'autre. À la longue, vous allez tout droit vers la blessure.
Moi, voilà. Moi, j'ai une espèce de petite ceinture dans laquelle on met une gourde. Là, j'ai acheté ça dans un magasin de sport.
C'est très bien, Emma.
C'est
très bien avec la gourde qui est posée à l'arrière, appuyée sur la ceinture. Où il y a même des petites bouteilles. Il y a des ceintures qui proposent plusieurs petites bouteilles.
Plusieurs bouteilles.
Oui, ça, c'est pas mal le coup de la cartouchière de bouteille autour de la taille, avec un bel avantage. Les différentes bouteilles sont bien réparties autour de la taille, donc il n'y a pas de déséquilibre, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous n'avez a priori pas de danger de vous blesser avec un truc qui est penche d'un côté et pas de l'autre, voyez.
Alors maintenant, des petits trucs à ne pas faire avec les chaussures.
Avec les chaussures, il y a deux choses essentielles. Pas de chaussures, pas adaptées. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller au mariage de votre cousin en tong, par exemple. Bon. Bah, ou alors de vous rendre au rendez-vous de votre patron pieds nus, non plus. Eh bien, si vous partez courir ou même marcher, vous devez porter des chaussures adaptées. Une chaussure typée running, ça veut dire courir en zofine, avec une bonne voûte plantaire.
Alors j'explique aux auditeurs, le zofine, c'est notre anglais à nous.
Voilà, c'est la mission. Donc le running, ça veut dire courir, donc. Avec une bonne voûte plantaire, il y en a pour tous les goûts et nos anciennes spécialisées regorgent de gens compétents qui qui vous guideront dans vos choix. Et puis il y a aussi les adeptes du « je ne défais pas mes lacets pour enlever et pour mettre mes chaussures ». Là aussi, c'est non. Vous voulez savoir pourquoi ?
Oui, monsieur le Président, on veut savoir pourquoi.
Eh bien, je vais vous le dire. À ne pas faire et défaire vos lacets, vous désajustez vos chaussures qui ont pourtant besoin d'être réajustées à chaque fois que vous les portez pour marcher ou courir. Au final, elles s'agrandissent et finissent par ne plus vous prendre bien le pied, ce qui n'est pas terrible de ne pas prendre bien son pied quand même, Michel.
Oh. Bah, bien évidemment, merci coach Cricri, sans compter qu'en forçant, eh ben, à chaque fois que vous forcez pour les mettre et les enlever, bah, vous fragilisez aussi vos ligaments, les tendons sur les chevilles, donc c'est pas forcément intelligent, c'est pas terrible. Et à propos, vous saviez Emma, ce que disait Pierre Dac sur les chaussures ou sur les femmes ?
Pas encore, j'ai hâte.
Il disait, les femmes, c'est comme les chaussures, quand on les quitte, il faut y mettre les formes.
Ah, c'est beau, c'est magnifique. Hein,
je sais pas s'il pourrait le dire aujourd'hui. Enfin, nous, on l'a dit.
Vous n'hésitez pas.
Voilà. Un petit peu de bref, les amis.
Les vacances estivales approchent. Si en fouillant dans vos placards, vous tombez sur vos crèmes solaires, vos vieilles crèmes solaires, hein, celles qui datent de l'an dernier, vous les mettez à la poubelle. C'est le conseil que nous donne Science et Vie, qui se fait l'écho de l'analyse de 16 crèmes vendues en Europe et aux États-Unis. L'étude montre que l'octocrylène, un composé souvent utilisé comme filtre UV, a tendance à se dégrader en benzophénone. Et le benzophénone a ce site particulier que la peau l'absorbe facilement. Et le problème, c'est que ce produit est un perturbateur endocrinien.
Vous avez fait chimie un petit peu en terminale ou pas ?
Oui, en terminale, j'en ai fait. Même un bac D, donc scientifique, donc physique-chimie.
Donc
physique-chimie, oui, monsieur.
Donc quand vous voyez B-E-N-Z, vous disiez benz.
Benzo.
Benzo. C'est comme ça que vous parliez. Benzo. Et le prof vous a jamais repris.
Non.
On dit benzo.
Benzo.
Ouais.
Ah ouais ?
Non, mais ça fait loin. Je sais que la terminale est loin, Patrick.
Bah, c'est dans sa benz, c'est pour ça.
Ouais. Il confond avec les bagnoles, en fait.
Il confond avec les bagnoles, peut-être.
Dans ton Benz. Merci, Pascal.
Voilà. Merci Pascal.
Une petite recette
c'est Pascal,
de gommage.
C'est
une petite recette de gommage maison que vous pouvez confectionner minutes juste avant de prendre votre douche. Vous prenez une cuillère à soupe de miel, une de sucre en gros grains et une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est pas compliqué. Miel, sucre en gros grains et huile d'olive. Vous mélangez tout ça et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à appliquer en massant doucement et à rincer.
Ça doit être bon en plus.
Ouais. Christophe.
Oui, moi le médecin dit à son patient, je vais devoir vous faire un toucher rectal. Et le patient lui dit, vous voulez pas me mettre un doigt dans le derrière non plus. je ris avant.
Non, mais c'est presque aussi drôle que la blague.
Ça m'a fait tellement rire quand un pote me l'a raconté que j'ai pas pu aller au bout. Voilà.
Moi je connais le j'ai un patient qui m'avait avant quand j'étais pas spécialiste qui m'avait dit bon ben après le toucher rectal il m'a dit, on peut se tutoyer maintenant.
Voilà, c'est un peu ça. Tout à fait.
Bon, bah écoutez les amis, c'est fini. Hein, et on va donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine à 9h15. Et ne loupez pas l'émission parce que ce sera la dernière de la saison. Après, nous partons. Oui, mais je sais, après
on revient,
nous partons
en vacances.
Mais ne vous inquiétez pas, nous serons là de retour la saison prochaine sur RTL tous les matins à 9h15. Et en attendant.
Tous les dimanches matin.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Tous les matins.
Mais j'aimerais bien qu'on fasse émission tous les matins. Donc, c'est un appel délicat à la direction de RTL. Et n'oubliez pas.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème.
Allez, plus ça va, plus la vie reprend son cours. On vous souhaite une super semaine. Préparez vos vacances si vous avez la chance de partir. Et surtout, prenez soin de vous. À dimanche prochain, les amis.
Bon dimanche.
Bonne semaine.
RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.